Radio Kapi.
Le journal Christian Makasinga.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, la coalition Article 64 condamne les violences visant ses membres et les sièges de l'ECIDE à Kinshasa. Elle maintient par ailleurs l'échéance du 15 août pour ses revendications. Vous aurez les détails dans un instant. Également dans ce journal au Nord Kivu, plus de 6000 ménages déplacés des Loubéraux viennent de recevoir une assistance en article ménager essentiel de la Croix-Rouge congolaise avec l'appui de l'UNICEF. Et à suivre à la fin de ce journal, notre invité Jean-Claude Kayumba Chabani, coordonnateur de l'ONG Réseau des associations pour le développement communautaire, il revient sur la prise en charge médicale gratuite de plus de 1000 survivants des violences sexuelles à Kindu, alors que le projet arrive à son terme. Voilà pour les principaux titres, les détails dans un instant. Christian Makassing à la présentation, bienvenue dans ce journal. Ouvrons ce journal par la réaction de la coalition Article 64 aux récentes violences politiques à Kinshasa. Cette coalition condamne les attaques visant ses membres ainsi que son siège de l'ECIDE. Dans un communiqué publié samedi, elle dénonce des actes de violence et d'intimidation, mais tient l'échéance du 15 août pour ses revendications et réclame le respect des droits de plusieurs personnalités politiques. Le point avec Jean Grandou.
La coalition Article 64 a condamné les attaques perpétrées contre les membres de l'opposition lors d'une réunion politique organisée le 6 août au camp Luka, ainsi que celles dirigées contre le siège de l'ECIDE le 7 août dans la ville de Kinshasa. Dans son communiqué publié ce samedi, cette plateforme réunissant notamment Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi, Auguste Matata et Delice Sangra dénonce des actes de violence et d'intimidation qu'elle juge contraires à l'état de droit et aux libertés publiques garanties par la Constitution. La coalition réaffirme également les positions exprimées dans ses précédents communiqués et maintient l'échéance du 15 août. Elle prévient qu'en l'absence de réponses concrètes à ses exigences, sa marche ira reprogrammée. La C64 dit aussi avoir pris acte du transfert annoncé d'Obin Minaku et de Ramazani Shadari vers un lieu connu après plus de 200 jours de détention qu'elle qualifie du reste d'arbitraire. Elle exige par ailleurs leur comparution devant un juge. Enfin, la coalition salue la restitution du passeport d'Olivier Kamitatou, qu'elle considère comme un geste d'apaisement du climat politique, tout en demandant que cette mesure soit étendue à d'autres opposants se trouvant dans la même situation.
Dans les débats sur l'avenir politique du pays, une autre voix réclame d'abord un travail de vérité et de justice. Le coordonnateur du Front Anti-Dialogue, Dedenon Kishi, appelle à la mise en place d'une commission vérité et réconciliation avant tout dialogue politique. Il estime que cette démarche permettrait de rechercher une paix durable et d'éviter la répétition des violences. Il est au micro de Blaise Nongala Mayanda.
Si nous voulons tenir un bon dialogue dans notre pays, nous devions commencer par le commencement. Le commencement, c'est la commission vérité, réconciliation et justice transitionnelle. Comme ça, on sait la vérité, qui a fait quoi, pourquoi il l'a fait. Donc, c'est une étape extrêmement importante. Sinon, tout ce qu'on fera, ça ne sera que de la politique. Tout ce qu'on fera, ça ne sera qu'une façon de se moquer de la mémoire de ceux qui sont partis. Tant que nous ferons des semblants de choses, nous n'irons pas vers la vérité de ce qui s'est passé, alors nous serons juste en train de jouer. Au lieu de chercher la véritable paix, au lieu de chercher la vérité qu'il faut pour que les uns libèrent. Imaginez que ces guerres et tout, ces événements que nous connaissons, nous les connaissons depuis de longues années, maintenant c'est 32 ans. Est-ce qu'il faut continuer sur la même direction ou bien il faut faire les choses telles qu'elles doivent être faites afin qu'elles nous amènent vers la véritable paix?
Direction maintenant le Nord Kivu, une assistance vient d'être distribuée à des milliers de familles déplacées. Plus de 6000 ménages de déplacés ont reçu des articles ménagers essentiels à Loubéo Centre. Cette assistance de la Croix-Rouge congolaise avec l'appui de l'UNICEF vise notamment les familles ayant fui les violences des ADF et l'occupation de certaines localités par l'FC M23. Les précisions avec Martial Papi Moukeba.
couvertures, bâches, ustensiles de cuisine et kits de dignité pour les femmes. Cette assistance doit répondre aux besoins les plus urgents des personnes déplacées. La majorité des bénéficiaires ont fui pour certains depuis plus de 2 ans les attaques des ADF dans les secteurs de Bapéré ainsi que l'occupation par l'AFC-M23 de certaines localités du sud du territoire des Loubéros. Selon Mboussa Kizito, président de la Croix-Rouge au Nord Kivu, cette aide vise notamment à améliorer les conditions d'accueil des déplacés.
C'est soulager tant soit peu les déplacés internes qui sont dans cette partie. Beaucoup de déplacés ont accusé les problèmes des conditions d'accueil. Dans les ménages, il n'y a pas de lit, d'ustensiles, de cuisine. Ils ont aussi accusé des problèmes d'hygiène intime. Et dans cette assistance, on a prévu des kits d'hygiène intime pour les femmes et pour les adolescentes. Le besoin est grand au point que nous avons un chiffre, mais quand on arrive sur le terrain, on trouve que le chiffre est peut-être sous-estimé.
La commune rurale des Loubéros accueille des milliers de déplacés hébergés dans des écoles, des familles d'accueil et des sites de déplacés. Selon les acteurs humanitaires locaux, leurs besoins restaient importants. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Du Nord Kivu au Congo central, où les commerçants attendent toujours la reprise d'un chantier important. À Matadi, les travaux de modernisation du marché sud sont à l'arrêt depuis 2022. Les commerçants réclament leur reprise afin de disposer d'un cadre approprié pour leurs activités. Les autorités, quant à eux, indiquent que des études sont en cours pour évaluer les coûts des travaux restants. Reportage d'Élise Cavira.
Le site qui abrite le marché sud ne donne pas l'impression d'un chantier dont la livraison est imminente. Derrière un portail de fortune en tôle se cache un projet à l'arrêt. À l'extérieur, quelques commerçants poursuivent leurs activités en plein air. Parmi eux, cette vendeuse qui affirme avoir placé beaucoup d'espoir dans ce projet de modernisation.
Un si grand marché, les travaux se sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Nous nous demandons si l'État reviendra un jour pour achever ces chantiers. En attendant, nous continuons à vendre en plein air car c'est ici que nous gagnons de quoi subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille.
Selon plusieurs habitants, ce n'est pas la première fois que les travaux de ces marchés connaissent un arrêt. Le marché sud avait déjà bénéficié d'une réhabilitation en 2008 avant le lancement en 2022 d'un nouveau projet de modernisation. Cette année encore, les autorités provinciales avaient promis la reprise du chantier.
Il y a quelques mois, le gouverneur était venu visiter les chantiers et nous avait promis que les travaux allaient reprendre. Mais jusqu'à présent, rien ne s'y passe. Nous sommes toujours dans l'attente.
Contacté à ce sujet, le conseiller en communication du gouverneur indique que des études sont actuellement en cours afin d'évaluer le coût des travaux restants et de définir les modalités de réouverture du marché sud aux commerçants de Matadi. Matadi, Élise Cavira, Radio Okapi.
Et à Mouyéditou, les autorités veulent désormais libérer les grandes artères occupées par le vendeur. Le maire somme les commerçants installés le long de voies publiques de rejoindre le marché central. Des mesures de saisie de marchandises sont annoncées en cas de refus. Reportage d'Esther Dalafina.
L'avenue du marché est l'une des principales artères de Mouyéditou. Elle croise la route nationale numéro 1 dans son tronçon qui traverse la ville ferroviaire et mène également vers l'aérodrome. Le long de cet axe stratégique, de nombreux commerçants ont installé des kiosques en tôle, en natte ou en matériaux de fortune afin d'y exercer leurs activités. De part et d'autre de la route, des installations forment un vaste couloir commercial où sont exposés des produits de toutes sortes au détriment de la circulation et de la sécurité des usagers. Pour le maire Gérard Tchibanda, cette occupation de la voie publique est injustifiée. Il souligne que plusieurs étalages restent inoccupés à l'intérieur du marché central où des espaces ont été mis gratuitement à la disposition des vendeurs.
On ne peut pas transformer une route en marché à l'intérieur du marché. On a donné même les places gratuitement.
Après plusieurs années de sensibilisation sans résultat probant, l'autorité urbaine entend désormais passer à une phase de répression. Les marchandises exposées sur la voie publique seront saisies et remises aux pensionnaires de la prison centrale. Il convient de rappeler que plusieurs vendeurs ont déjà perdu la vie dans des accidents de circulation survenus le long de ces routes très fréquentées. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
En Ituri, la population est appelée à participer davantage aux décisions concernant le développement local. C'est l'une des conclusions d'un atelier de projet Star RDC, clôturé samedi à Bounian. L'initiative vise notamment à promouvoir le budget participatif, la rélevabilité et la cohésion sociale. Marcia Kizabiamungu pour les détails.
Des acteurs sociopolitiques de base et autorités coutumières ont réfléchi pendant 3 jours à Bounia aux besoins prioritaires de leurs entités respectives afin d'asseoir un développement local durable. À travers cette démarche, les projets Star RDC attend promouvoir une gestion plus participative des ressources publiques en permettant aux populations locales de prendre part à l'identification des besoins prioritaires et au suivi de l'exécution des projets de développement. Selon les organisateurs, cette approche centrée sur le budget participatif vise également à améliorer la mobilisation des recettes locales et à renforcer le civisme fiscal en établissant un lien transparent entre les impôts et taxes payées par les citoyens et les réalisations concrètes au bénéfice des communautés locales. Pour les autorités provinciales, cette démarche contribuera à restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés tout en renforçant la transparence et l'efficacité de l'action publique au niveau local. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Pendant ces temps au Sud Kivu, la dégradation de routes complique davantage la circulation à Bukavu. Plusieurs axes de la ville sont fortement dégradés, perturbant les déplacements et augmentant les risques d'accidents. La société civile appelle à une réhabilitation urgente de la voirie. Des explications avec Ronelly Timbonera.
La route reliant la place de l'Indépendance à Chiriri, dans la commune de Kadutu, figure parmi les axes les plus délabrés. Chauffeurs de bus, mototaximens et piétons se disputent les trottoirs afin d'éviter de tomber dans de nombreux nids de poules qui jonchent la chaussée. Une situation similaire est observée sur les tronçons Kansayo-Cimetière dans la commune d'Ibanda ainsi que l'axe Essence Maria-Kachelewa. Selon la société civile, ces dégradations affectent la mobilité des habitants et contribuent à l'augmentation des accidents. L'un des membres appelle à la réhabilitation de ces infrastructures pour permettre aux habitants de vaquer à leurs occupations. Notons qu'une situation comparable est vécue sur la route nationale numéro 2 dans les territoires de Mwenga. L'axe Kalambi-Luino, dont la réhabilitation avait été annoncée avant d'être suspendue au 31 juillet, mérite également une attention particulière, notamment entre Mwenga et Kamituga au sud Kivu.
Et au nord Kivu, un autre axe routier stratégique est également dans un état préoccupant. La route Irengeti-Kainama, longue d'environ 45 km, est devenue difficilement praticable. Les usagers demandent sa réhabilitation pour faciliter les échanges commerciaux, l'accès aux soins et la circulation dans cette zone. Reportage de Marc Marofimbo.
Longue d'environ 45 km, la route Irengeti-Kainama est aujourd'hui devenue un véritable calvaire pour ses usagers. Depuis les fortes pluies enregistrées en juillet dernier dans cette région forestière, plusieurs tronçons se sont fortement dégradés, rendant la circulation particulièrement difficile. Conséquence, les véhicules assurant les transports des produits agricoles ou du bois vers Irengeti ou Beni fréquentent de moins en moins cet axe. Même les motocyclistes éprouvent d'énormes difficultés pour atteindre le centre commercial de Kainama. Pourtant, cette route revêt une importance capitale pour la région. Sur le plan sanitaire, elle facilite l'évacuation des malades vers les structures de santé d'Irengeti, d'Oicha ou de Beni. Sur le plan sécuritaire, elle permet aux forces de défense et de sécurité d'accéder plus facilement à cette zone souvent exposée aux menaces des rebelles ADF et d'autres groupes armés locaux. Au niveau économique, cet axe constitue également une voie essentielle pour les échanges commerciaux entre le territoire de Beni et le centre commercial de Boga dans le sud du territoire de Rumu en province de l'Ituri. Face à cette situation, les usagers plaident pour une réhabilitation urgente de la route afin de désenclaver la région et de relancer les activités socio-économiques. Nous n'avons pas obtenu la réaction de l'entreprise attributaire des travaux sur cet axe routier. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Enfin, à Goma, l'art devient un moyen d'expression et de résilience pour les enfants. 30 enfants ont participé pendant 3 jours à un atelier artistique consacré au dessin et à la peinture. L'objectif, les aider à exprimer leurs émotions et à mieux gérer les conséquences de traumatismes liés au conflit. Reportage de Bernadine Yambou.
Nous allons procéder à la remise des tableaux faits par nos enfants.
C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s'est clôturé cet atelier artistique. Pendant 3 jours, les enfants ont été initiés aux techniques de dessin et de peinture sur papier et sur toile. À travers leurs créations, ils ont appris à exprimer leurs émotions, leurs ressentis et leurs aspirations à l'aide de formes et de couleurs. L'un des participants témoigne.
Oui, je sais que maintenant, comme pour gérer mes émotions, je peux peut-être dessiner, aider de la musique, pratiquer toutes sortes d'art.
Pour les organisateurs, la pratique de l'art constitue un moyen efficace d'aider les enfants à gérer leurs émotions. À travers les dessins, ils peuvent extérioriser la joie, la tristesse, la peur, une approche qui contribue à la prise en charge psychosociale des enfants de Goma, souvent confrontés aux conséquences des violences récurrentes dans la région. C'est ce qu'explique ici Materania, l'un des responsables d'Afroj Jama.
Nous avons remarqué que bon nombre des enfants sont traumatisés d'après ce qui s'est passé à l'est du pays. Et nous avons jugé mieux d'utiliser l'art, les dessins, pour permettre aux enfants de s'exprimer ce qui se cache encore en fond d'eux.
L'atelier s'est clôturé par une exposition et la remise des œuvres réalisées par les enfants eux-mêmes sur papier et sur toile.
Actualité internationale.
Israël s'inquiète de la création d'un pacte de défense entre la Turquie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Les ministres pakistanais de la Défense appellent à la formation d'un front militaire uni contre Israël, tandis que Tel Aviv redoute un isolement régional.
L'invité.
Nous terminons cette édition avec notre invité Jean-Claude Kayumba Chabani, coordinateur de l'ONG Réseau des associations pour le développement communautaire. Comme annoncé au sommaire, il revient sur la prise en charge médicale gratuite de plus de 1000 survivants des violences sexuelles à Kindu. Alors que ce projet arrive à son terme, il évoque le besoin qui reste important sur le terrain. Jean-Claude Kayumba Chabani s'entretient avec Florence Kizalunga.
Jean-Claude Kayumba, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous arrivez fin projet assistance d'urgence en protection aux survivants de violences sexuelles dans la zone de santé de Salamabila. Dites-nous, qu'est-ce qui a été mené là comme activité brièvement?
Merci beaucoup. Nous allons commencer par présenter certaines activités que nous avons menées dans le cadre de ce projet qui a été financé par la Fondation Arnaud de la Camara. On a commencé par le lancement du projet à Kindu, à Salamabila et à Wamaza. Après ça, nous avons briefé sur le circuit des survivants et établir un mot de passe qu'on appelait Caribou. Après, nous avons commencé à implémenter maintenant la mise en œuvre des activités dans les quatre structures qui ont été sélectionnés, entre autres Kimbaseke 1, hôpital général de référence de Salamabila, camp central et centre de santé de référence de Wamaza.
Dans votre projet, il a été question d'assister 800 survivants. Est-ce que vous avez réussi cet objectif?
Oui, nous avons réussi, madame, jusqu'à ce que nous sommes allés même au-delà de ces 800. Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs, entre autres la réduction des cas de violences sexuelles dans la zone. Et nous avons dit qu'on va traiter ensemble avec le partenaire, on va traiter 800 survivants de violences sexuelles. Mais dans notre projet, nous sommes allés au-delà parce qu'on a traité 1028 survivants de violences sexuelles dans l'espace de 6 mois de notre projet, dans les 4 structures que je venais de vous citer. Nous avons aussi fait la donation de kits de dignité aux survivants. On a aussi payé les factures de soins aux survivants avec d'autres comorbidités parce qu'il y avait des survivants qui se présentaient avec d'autres maladies, il fallait qu'ils soient ou qu'elles soient soignées d'abord à ces maladies qu'elles se présentaient avec. Et puis, nous avons fait aussi une grande activité, dont celle de l'élaboration d'un plan de réduction des risques liés aux violences sexuelles, ensemble avec toutes les couches de la communauté.
Quelle a été votre stratégie pour arriver à réussir toutes ces victimes?
Pour arriver à réussir toutes ces victimes, nous avons utilisé une stratégie simple. On avait les ACR, les agents santé de la reproduction. Donc, ce sont les agents qui étaient basés dans la communauté. Et ces agents référaient directement les survivants au centre de santé le plus proche. Parce que dans chaque structure, il y avait des agents santé de la reproduction. Et aussi, arrivé à la structure, il y avait une rapidité de traitement des cas parce qu'on a utilisé un mot de passe.
C'était une façon d'éviter la stigmatisation de ces victimes?
Oui, c'était une façon d'éviter la stigmatisation de ces victimes. Et aussi, on a augmenté une autre activité, l'activité de planning familial. Parce que une victime, si elle arrive, une victime de violence sexuelle, si elle arrive, et aussi une maman qui vient faire la planification familiale arrive, on ne sait pas si cette maman arrive parce qu'elle est victime ou soit parce qu'elle vient faire la planification familiale. Voilà la manière dont nous avons fait pour éviter la stigmatisation des femmes ou des survivants dans la zone.
Radek ONG, vous êtes venu parce que MSF a quitté la zone. Maintenant là, vous êtes fin projet. N'est-ce pas une façon de laisser ces victimes encore comme des orphelins et orphelines?
Merci beaucoup, madame. Je peux vous dire que C'est une invitation à toutes les organisations humanitaires de venir œuvrer à Salamabila, parce qu'à Salamabila, il y a encore des cas de violences sexuelles. Et au-delà de ça, nous invitons aussi, une fois de plus, nous prions pour que la fondation Arnold de la Camara, celle qui nous a financés, et d'autres congrégations, puissent continuer avec la deuxième phase. Parce que si on fait la deuxième phase avec beaucoup de sensibilisation, on espère qu'il y aura une réduction des cas de violences sexuelles dans la zone.
Y a-t-il des difficultés qui ont été enregistrées durant cette période?
Oui, nous avons connu beaucoup de difficultés parce que dans la zone, il y a d'abord l'absence de kit PEP dans la zone santé. Au début de notre projet, nous avons trouvé que 3 kit PEP, il faudra se débrouiller ici et là pour trouver les kit PEP afin de soigner les survivants de violences sexuelles. Et au-delà de ça, les intras aussi de planning familial n'existent presque pas dans la zone santé de Salamabila. Alors c'est une question que j'appelle les autorités, j'appelle les humanitaires afin que cette zone soit aussi renforcée en intrant planning familial.
Jean-Claude Kayumba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Radio Okapi.
Fin de cet entretien avec Jean-Claude Kayumba Chabani, coordonnateur du réseau des associations pour les développements communautaires. Il répondait aux questions de Florence Kizalunga sur la prise en charge des survivants des violences sexuelles à Kindu. C'est ici que prend fin cette grande édition des 18h. Christian Makassing était à la présentation sous la coordination de Richard Junior Kamunga avec Dédoné Nyangasa Wanyangasa à la mise en onde. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence et la paix. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletins d'information dominicales.